la richesse de la filiation. C'est ma première slide, la richesse de la filiation. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que veut dire la filiation? Est-ce que vous avez... Non? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce mot-là, la filiation? Non? Oui? Oui, un petit peu? OK. Alors, en fait, la filiation, voici, je vous donne une définition. La filiation, c'est désigne le rapport de famille qui lie un individu avec une ou plusieurs personnes dont il est issu. Dans le cadre de mon message, je veux parler de la filiation, donc du lien que nous avons, nous, enfants de Dieu, avec notre Père qui est aux cieux. Et c'est important de le comprendre que on a un lien qui vient avec un héritage. Donc, notre Dieu est notre Père et il a un héritage pour ses enfants. Et il a un plan, une destinée. Et en fait, tout ça se passe à travers également Jésus. En fait, il a envoyé Jésus, comme vous le savez, et il nous a adoptés comme ses enfants, la Bible dit. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que en fait, Dieu, souvent on peut appeler Jésus notre Seigneur. Hein, dans nos prières, on met souvent des titres à Dieu. On dit Seigneur Jésus, Éternel notre Dieu. On met toutes sortes de titres. Mais une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est également notre Père. Et qu'on a un Père qui est aux cieux. Et que justement, comme je le disais, on est ses enfants. Alors, on connaît tous cette prière, en fait, cette prière qui a été faite déjà il y a plusieurs milliers d'années, la prière du Notre Père. Et cette prière-là, en fait, est enseignée par Jésus. Et alors qu'elle est enseignée par Jésus, en fait, cette prière nous dit, Notre Père, on peut le mettre à l'écran, qui es aux cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Et beaucoup de gens, en fait, ont pris cette prière-là. Souvent, des fois, on peut prier d'une manière religieuse. On va faire Notre Père qui es aux cieux, que ton règne soit, etc. Mais en fait, on ne met pas vraiment le cœur. On fait des prières, des récitations. Mais ce que Jésus veut nous enseigner, en fait, dans cette prière, il nous enseigne un type, un modèle de prière. En fait, quand on voit Jésus, en fait, nous présente ça, il dit, voici comment vous devez prier. Il met premièrement l'emphase sur Dieu en disant, Notre Père, quand vous devez prier, priez Notre Père. En fait, le Père, c'est le fondateur, c'est le créateur, c'est l'architecte de l'univers. C'est lui qui a mis toutes les choses en place, qui a aligné toutes les choses entre elles. Et c'est important de ne pas rester dans une forme de tradition quand on prie. En fait, il ne faut pas que ça devienne un rite habituel, une récitation comme une formule magique. Et le Notre Père, c'est une révélation qui est oubliée. On oublie de prier, en fait, Dieu, de s'adresser à Dieu comme notre Père. On dit souvent Seigneur Jésus, il n'y a pas de mal pour ça, parce que Jésus nous donne l'accès à lui, mais également on peut prier en tant qu'enfant de Dieu, nous positionner en tant qu'enfant de Dieu et lever les yeux et prier notre Père au nom de Jésus-Christ. Et je lisais quelques articles pendant que je préparais mon message, quelques articles d'actualité, et je suis tombé sur un article justement qui est, prochaine diapo, le Journal de Montréal. Et en fait, cet article disait « Ne me parlez plus de Dieu, s'il vous plaît. » Et ça m'a touché parce que cette chroniqueuse du Journal de Montréal, en fait, amenait un article « Ne me parlez plus de Dieu, s'il vous plaît. » Et des fois, c'est la phrase de plusieurs qui ont été déçus de Dieu, qui ont été, soit qui n'ont pas vu de bons représentants de Dieu, et ça a créé littéralement des blessures et même des fois du dégoût par rapport à Dieu. Et cet article en août 2022 disait, le journal présentait un article appelé « Ne me parlez plus de Dieu, s'il vous plaît ». La chroniqueuse citait ceci, « J'ai été interpellé par un texte publié dans l'édition du 24 mai qui s'intitulait « Quelle bêtise que la religion ». À bien des égards, ma pensée rejoint ce qu'écrivait cette personne, dit la chroniqueuse. Et elle nous parle que les religions étaient créées par le pouvoir en place pour contrôler les gens. Et moi, une des choses que je réalise, c'est qu'on a une grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de présenter Dieu. Et également, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que ça, Dieu ne doit pas être la relation ou l'expérience de quelqu'un d'autre. En fait, Dieu doit être ma propre expérience avec lui. Sinon, toute notre foi, toute notre vie va se baser sur, en fait, ce qu'on pense, ce qu'on voit des autres. Et je disais ça, alors que je prêchais à Trois-Rivières il y a un ou deux mois, je disais, vous savez, vous pouvez aller au magasin, par exemple, Apple, vous pouvez aller acheter un iPad, un iPhone, un MacBook Pro, vous pouvez avoir la pire expérience avec le vendeur, au point où le vendeur vous charge deux fois le prix parce qu'il se trompe de montant. Il ne vous sourit pas, il est désagréable avec vous. En fait, votre expérience avec le magasin Apple est horrible et vous ne voulez plus entendre parler de Apple parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Mais la réalité, c'est que vous n'allez jamais remettre en question que le fondateur de Apple est Steve Jobs, n'est-ce pas? En fait, l'expérience que vous avez avec des représentants d'Apple ne change pas le statut de qui est le fondateur. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. En fait, des fois, on vit des conflits entre frères et sœurs, on vit des choses qui nous affectent et qui nous disent peut-être on se fâche à l'intérieur de nous et ce qu'on fait en tant que réflexe, on dit ben, « si on vit ça, alors Dieu n'existe pas ». Mais en fait, la réalité, c'est que Dieu, on ne peut pas attribuer à Dieu et de remettre en question Dieu parce qu'on vit de mauvaises expériences les uns avec les autres. Parce que Dieu reste Dieu, ça ne change pas qui il est. Steve Jobs reste Steve Jobs, qu'on ait une mauvaise expérience avec le vendeur ou pas. Et c'est important de le comprendre, d'avoir vraiment cette compréhension et cette révélation. En fait, la Bible dit, il faut avoir une révélation de qui est Dieu. Et notre regard va rester porté vers lui. Et alors que notre Père, on le prie pour certains, pour plusieurs, dans nos prières, on l'invoque en tant que Dieu notre Père, le Père est une personne. Le Père est une personne. En fait, Louis Berkhof, qui a été professeur et doyen de Calvin Theological Seminary à Grand Rapids au Michigan, dira ceci. Le Père est la première personne de la Trinité. Il a comme rôle de créer en fait l'œuvre de la création. En fait, même l'œuvre de la création tout entière est attribuée au Père. Mais ce n'est pas tout. Dans le Nouveau Testament, le mot Père est utilisé pour le représenter, comme le Père de tous ses enfants spirituels, au sens éthique de la chose. Et toute paternité humaine qu'on peut avoir ici-bas sur Terre n'est que le pâle reflet, en fait, de cette paternité originelle de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, aussi avec autant d'efforts, autant de cœur qu'on peut mettre les pères dans, pour leurs enfants, ceci n'est que le pâle reflet de ce qui se passe dans, au sein même de la Trinité, au sein même de Dieu notre Père. Et ce qui est difficile, c'est que des fois, on a du mal à appeler Dieu notre Père parce que, en fait, on a été déçus de notre expérience paternelle. Plusieurs ont vécu, plusieurs pères donnent le meilleur pour leurs enfants, ils se donnent, ils essayent d'être les meilleurs modèles, mais la réalité, c'est qu'on est imparfait. Et d'autres même ont été complètement absents. Et il est difficile pour plusieurs de... alors qu'on va regarder vraiment les trois absences paternelles, il est difficile pour plusieurs de s'imaginer, en fait, que Dieu est présent au milieu de nous. Pourquoi ? Parce que certains ont vécu une absence physique. Moi, j'en fais partie. Je n'ai pas connu réellement mon père. D'autres ont connu leur père, mais il y a une absence émotionnelle. Une absence émotionnelle, c'est-à-dire que le père est là, mais il est absent, en fait, au niveau émotionnel. Et l'enfant a été débalancé dans sa psychique, dans sa psychologie de la parenté. En fait, il n'ose peut-être même pas se confier, demander conseil ou juste apprécier cette relation de père à enfant. Enfin, d'autres ont vécu une absence paternelle, spirituelle, où le père n'a pas été un leader spirituel pour présenter sa famille, ses enfants dans les voies du Seigneur. Et alors que des fois, on a vécu des absences dans notre vie, ce que ça fait, c'est que on balance ça sur Dieu. On a du mal à comprendre la dimension paternelle que Dieu a envers ses enfants. Et alors qu'une fois, j'étais dans ma chambre, je me rappelle, j'avais 15 ans, et que comme je vous ai dit, vu que je n'ai pas grandi avec un père, j'avais du mal à comprendre la dimension du père paternel. Et un jour, Dieu, dans ma chambre, alors que je priais, j'étais en communion, se révèle à moi, et il me dit une chose dans mon cœur, il dit « Est-ce que tu sais que je suis ton père ?» Et moi, quand Dieu s'est révélé dans ma chambre, alors que je priais, j'avais du mal à comprendre. Je disais à Dieu « Non, je n'ai pas vraiment de compréhension. » Et Dieu a commencé à m'enseigner sur, en fait, qui il est pour ses enfants. Que j'ai des droits, que j'ai un héritage, que j'ai la possibilité de m'approcher de lui, qu'il a des plans et des projets merveilleux pour nous. Et c'est important de le réaliser, parce que si on ne le réalise pas, toute notre vie, on va passer à côté de plusieurs bénédictions que Dieu avait à nous transmettre. Parce que, justement, on a peut-être eu une expérience plus ou moins bonne avec notre père paternel. Et la chanson de Stromae, qu'on peut mettre à l'écran, de Papa Outé, en fait, peut-être plusieurs le connaissent, Stromae. Stromae, c'est un artiste international qui a fait, en fait, avec cette chanson, un buzz mondial. En fait, je regardais le nombre de vues en préparant ce message-là. Et cette chanson a été vue 1 milliard de fois. Et les paroles de cette chanson sont « Dites-moi, en fait, je reprends ces paroles, dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit « Travailler, c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. » Et cette chanson-là a été chantée par des millions et des millions et des millions de personnes, parce que justement, comme je vous ai dit, il y avait, en fait, pour plusieurs, en fait, ce manque qu'il y a eu dans cette relation. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu veut se révéler à nous dans toute la paternité qu'il a pour nous. Dieu, si une des choses qui se passe à la fin de ce message, c'est que plusieurs recomprennent ou changent leur vision de Dieu par rapport à cette paternité, je me dirais que le Seigneur m'a vraiment utilisé bénéfiquement ce matin pour nous à Drummondville. Et pour être capable qu'un père puisse vraiment être un vrai modèle, désirer de suivre l'exemple en fait, de Dieu, il faut qu'il regarde à Jésus. Pour être capable de faire cela, en fait, on doit s'inspirer constamment de la filiation, donc comme je disais, de la relation père-enfant parfaite que la Trinité, en fait, nous présente. Jésus, dans sa parole, nous fait découvrir comment se passe sa relation avec son Père. Il écrit en Jean 14, verset 16, « Moi, je demeure au Père de vous, au Père de vous donner, moi, je demanderai au Père, pardon, de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » Amen. Et c'est important de réaliser que Jésus s'entretient constamment avec son Père. En fait, Jésus ne fait rien de lui-même, la Bible dit. Tout ce qu'il fait, il s'accorde avec la volonté de son Père. Et c'est important de le comprendre parce que sinon, si on ne le comprend pas, on va juste vouloir suivre Dieu sans comprendre que Jésus lui-même est en parfaite harmonie avec son Père. Et il dit dans Jean 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Il dit à Jésus « Et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il dit « Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jésus est dans le Père et Jésus, si tu veux vraiment comprendre, regarde à Jésus. Parce que Jésus, la Bible dit, est l'image visible du Dieu invisible. Donc, si tu veux voir le Père, tu dois regarder à Jésus. Parce que Jésus est l'image du Père visible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a notre Bible, la parole, pour pouvoir voir qui est Jésus. La Bible nous présente qui est Jésus. Et alors, on peut comprendre qui est le Père et comment le Père voit ses enfants, nous. Mais alors que le Père est en Jésus et que Jésus est dans le Père, La parole nous révèle que nous sommes ses enfants et que ses enfants, en fait, que être son enfant, être enfant de Dieu, amène une nouvelle identité. Il y a une identité nouvelle pour nous qui avons accepté Jésus. Et c'est important de le comprendre parce que si on ne comprend pas que Dieu a une identité nouvelle, on va constamment se flageller. On va constamment, quand on va rater des choses, se frapper dessus pour dire « Ah, on n'est pas bon, on n'est pas assez, etc. » Mais Dieu nous a tout donné dans notre nouvelle identité avec lui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à de merveilleuses choses. Une des premières choses à savoir, c'est que nous avons accès à des promesses. Dieu a la capacité d'exaucer nos prières. En fait, les promesses qu'on met à l'écran, une des premières choses, c'est que Jésus nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Qui a envie de voir ses prières exaucées par Dieu quand il prie? Est-ce qu'il y en a qui prient? Oui. Est-ce que vous voulez que Dieu prenne vraiment plaisir à répondre à vos prières? J'imagine que tout le monde, sinon on ne prierait pas. Si on savait qu'on prierait et qu'en fait, au final, Dieu ne ferait rien pour nous, on arrêterait de prier. Mais on réalise que Dieu peut répondre à notre prière parce qu'il est notre Père. Mais comment ça se passe pour que Dieu réponde à notre prière, que Dieu nous accorde sa prière? Il dit « Demeurez en moi ». Tu dois demeurer dans le cœur de Jésus. Tu dois chercher constamment le cœur de Jésus. Et tu dois faire en sorte que ces paroles, tu dois connaître la parole, tu dois connaître les paroles de Jésus. Et il dit, celui, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, pour que les paroles de Dieu demeurent en toi, pour que les paroles de Jésus demeurent en toi, il faut que tu saches quelles sont les paroles que Jésus a données, n'est-ce pas? Parce que si tu ne connais pas les paroles que Jésus a données, elles ne pourront pas demeurer en toi. Et la Bible dit que si tu veux être, qu'on accorde une réponse à ta prière, il faut que ces paroles demeurent en toi. Donc ça va de lien, ça va de pair. Et c'est important, frères et sœurs, de réaliser que, alors qu'on vit des fois des situations difficiles, Dieu nous sécurise dans la prière. En tant que père, Ésaïe 41, verset 10 nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, dit Dieu. Je te soutiens par ma main droite, la main de ma justice. » Confions-nous en Dieu, frères et sœurs. Même quand nous passons par des tempêtes, même quand nous passons par des défis, même quand nous passons par des zones de questionnement, de remise en question, car Dieu est avec nous. Il nous l'a promis, il est avec nous. Et la deuxième chose que j'aimerais présenter ce matin, c'est que alors que Dieu a des promesses pour ses enfants, qu'il nous a offert, Dieu également nous partage un héritage. Et alors qu'on l'affiche à l'écran, Romains 8, versets 16 à 17 nous dit « L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et héritières de Dieu, et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que alors que Dieu nous a adoptés comme ses enfants, Dieu non seulement nous a adoptés, mais il ne nous a pas juste adoptés sans rien nous donner. La Bible dit que Dieu nous a fait héritiers, héritiers avec lui et co-héritiers avec Christ. Donc, à travers, Dieu t'a adopté à travers Jésus et il t'a donné un héritage. Et c'est important, frères et sœurs, de comprendre que nous avons un héritage. On a le droit en notre possession. On a un héritage en notre possession et c'est très puissant l'héritage que Dieu nous a donné. Et tu as accès par la foi à tout ce qu'il a en réserve pour toi et c'est très, très, très riche ce qu'il a pour toi. Je regardais justement un article là qui passait de... Peut-être plusieurs le connaissent cette entreprise Hermès. Hermès, c'est une entreprise française fondée à Paris en 1837 et c'est une entreprise... La fortune de la famille Hermès est estimée en 2023 à peu près 137,8 milliards d'euros, soit à peu près 202 milliards de dollars canadiens. Je faisais le calcul, j'ai regardé convertisseur euro dollars canadiens. C'est à peu près 202 milliards de dollars. Et un des descendants du fondateur d'Hermès, qui, en fait, cette entreprise, c'est une entreprise de maroquinerie, de parfumerie, prêt-à-porter, horlogerie et les arts de table, etc. Et un des descendants du fondateur Hermès, la célèbre maison de maroquinerie française, en fait, monsieur Nicolas Puech, il disait que, en fait, c'est le plus gros actionnaire individuel d'Hermès avec une participation aux environs de 5%, explique la compagnie. Et pourquoi je parle de Hermès? C'est que Hermès, en fait, monsieur Puech, avait en fait avec lui une personne dans sa maison et il en fait c'était son ancien jardinier et c'était un homme à tout faire. Cet homme-là était âgé de 51 ans, venait d'une famille modeste et il a désiré faire héritier cet homme-là. Et pour pouvoir et les journaux suisses disaient non, c'est impossible, c'est même il y a même pas un lien de filiation et pour en fait, ils disaient que pour qu'il puisse faire héritier cet homme-là, il fallait qu'il l'adopte à 51 ans. Et il travaillait sur ça pour que cet homme de 51 ans, le jardinier de M. Pouès qui avait 80 ans, pour qu'il puisse recevoir l'héritage, il fallait qu'il puisse l'adopter pour après qu'il y ait une transmission d'héritage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, c'est comme ça. Dieu a un grand héritage, bien plus, je parlais de chiffres, mais c'est bien plus que ces chiffres-là. Dieu a la vie éternelle. Et pour qu'on puisse vivre l'héritage, il a fallu que Dieu le Père nous adopte à travers Jésus, pour qu'il puisse nous donner accès, pour qu'on puisse avoir accès à l'héritage. Et est-ce que pour ça, on pourrait vraiment acclamer Jésus qui nous a adoptés et qu'aujourd'hui, on a un héritage avec Dieu? Et alors que Dieu a un héritage, il nous a fait co-héritier, il nous a tout donné à la croix. Tout donné à la croix. Et il faut réaliser que un des plus beaux héritages que Dieu nous donne, oui, il nous donne sa paix. Il nous a dit, je vous laisse ma paix. Il nous donne sa joie, mais il nous a donné la vie éternelle. Et c'est tellement à l'intérieur de nous satisfaisant de dire que nous avons goûté à la vie éternelle et nous serons avec lui pour toujours. La vie sur terre, frères et sœurs, passe vraiment très, très vite. La moyenne des personnes qui vivent le plus longtemps à peu près sur la Terre, si on regarde certaines statistiques, c'est 80 années. Vous faites 80 fois 365 jours, j'ai fait le calcul, ça fait 29 200 jours. C'est-à-dire que vous venez sur la Terre pour à peu près 29 200 jours et après vous repartez, bon, je parle d'une moyenne, et après vous repartez. Certains sont partis plus tôt, certains sont partis plus tard, mais c'est à peu près une moyenne de 30 000 jours et après vous allez pour l'éternité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser qu'on est de passage sur cette terre-là. Et il faut vraiment vivre les promesses que Dieu notre Père nous a données. Parce que cette vie sur terre est une fumée, c'est une vapeur. Paul, l'apôtre Paul le dira, il disait, si ma seule espérance était ici-bas sur terre, je serais le plus malheureux de tous les hommes. Et il avait compris qu'il était de passage, et on est tous de passage. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser on veut suivre Dieu, on veut découvrir tous les jours parce qu'on va être pour l'éternité avec lui. Et ça serait bizarre de passer l'éternité avec quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, si durant notre pèlerinage sur Terre, on n'a jamais pris un temps pour le connaître vraiment, pour le chercher vraiment, pour découvrir ce qu'il avait vraiment pour nous. Et d'un coup, du jour au lendemain, on part, on le rejoint, on quitte ce monde. Et là, maintenant, on passe l'éternité sans fin avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais cherché, qu'on n'a jamais décidé dans notre cœur de suivre, qu'on n'a jamais fait cette prière, Seigneur, ta volonté dans ma vie. Et là, d'un coup, maintenant, tu voudrais vivre dans le bonheur, la joie, la paix avec lui pour toujours. Ça serait juste un étranger pour nous. Mais tu ne veux pas que Dieu soit un étranger pour toi. Tu veux l'inviter chaque jour, au quotidien, dans notre vie. Et on doit, alors que Dieu nous fait toutes ces belles bénédictions, nous donne tout ça, Dieu s'attend aussi à ce qu'on puisse en fait, nous conduire selon ses principes. Il dit dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Nous devons vivre, en fait, être ce témoignage, être l'enfant de Dieu que Dieu désire pour nous. Et Dieu ne veut pas simplement que nous restions des bébés spirituels toute notre vie, comme la Bible enseigne dans Galates 4, versets 1 à 7. Dieu veut que nous soyons des fils et des filles, des représentants de lui. Il dit, voici ce que je veux dire dans Galates 1, verset 7. Moi, ce que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Mais bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Et tant que nous restions des bébés spirituels, en fait, c'est comme si Dieu a un grand héritage, mais on ne peut pas vraiment en profiter. On ne peut pas vraiment en profiter. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore vraiment compris, on est encore dépendant constamment des choses, des événements autour de nous. Mais Dieu veut qu'on soit vraiment des personnes libres et affranchies qui marchent dans leur identité de fils et de fille de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Et il dit aussi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Plusieurs personnes, alors qu'on parle d'enfants, on parle de fils, on parle de filles, plusieurs également, en tant qu'enfants de Dieu, on vit des choses difficiles. Si la réalité, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas linéaire. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Et d'ailleurs, plusieurs sont des fois confrontés à des difficultés et même à du rejet. Souvent, vous allez vivre une vie chrétienne et votre vie, des fois, vous allez passer par du rejet. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre notre statut quand on est confronté à ce genre de sentiments, à des épreuves, à des difficultés. Et alors que le statut en Dieu, c'est quoi ? Il faut comprendre qu'une des premières choses, c'est comprendre que notre Père dans les cieux nous a choisis. Il dit en Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous donc d'une tendresse magnanime de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Mais tu n'es pas seulement choisi de Dieu comme un choix non voulu ou un choix qui a été imposé par Dieu non désiré. En fait, Dieu nous accepte. Il nous a acceptés en tant que pécheurs. On marchait loin de lui. Dieu a décidé de nous accepter dans notre condition misérable pour nous racheter et nous amener près de lui. Galates 3, versets 18 à 19 dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » En fait, pour pouvoir devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une question de culture, ce que dit Dieu. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de niveau universitaire. Ce n'est pas une question de couleur de peau, de background social, de background familial. En fait, l'élément qui fait en sorte que nous faisions partie de la grande famille de Dieu, c'est simplement, comme Galates nous dit, notre lien avec Jésus. Puisque nous avons tous été adoptés par Jésus, par notre Père qui est dans les cieux. Et non seulement Dieu nous a choisis, il nous a acceptés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a aimés également. Et Jean 16, verset 27, nous le présente bien, il dit « Car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. » Et c'est pour ça qu'on doit réaliser que je suis aimé de Dieu. Même si les gens autour de toi ne t'aimaient pas, tu dois comprendre que ton identité n'appartient pas aux gens autour de toi. Ton identité appartient à celui qui t'a racheté, à celui qui t'a aimé même avant que tu viennes sur cette terre. Et alors que Dieu t'aime, il t'a également pardonné. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se traite très durement. On est rough envers nous-mêmes. On est dur. On a l'impression que Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on tombe, on fait des fautes. Et on pense que Dieu, en fait, est toujours en train de nous condamner comme un père qui serait là pour nous frapper quand on fait des erreurs. Mais il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, « Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. » Dieu s'est réconcilié avec toi à travers Jésus. Et aujourd'hui, tu as accès à tout ce que Dieu, et Dieu te pardonne. Alors si Dieu te pardonne, pardonne-toi aussi. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas vivre une vie dans la culpabilité. Et l'ennemi aime ça, te garder dans la culpabilité. Mais Dieu veut, comme je l'ai dit précédemment, te voir libre, profiter pleinement de ton héritage, parce qu'il a, il t'a donné un héritage. Et si, imaginez quelqu'un qui vous donne un héritage, c'est pas pour que vous viviez une vie comme si vous n'aviez pas d'héritage. Sinon, l'héritage qu'il vous a donné ne sert à rien. Mais s'il vous donne un héritage, il faut que vous puissiez vivre et recevoir pleinement l'héritage qu'il a pour vous. Et alors que Dieu nous a pardonné, Dieu nous a bénis. Il dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux célestes, dans le Christ. » Donc, je suis une personne bénie. Je ne suis pas une personne maudite. Même si je vis des choses difficiles, même si je vis des épreuves, même des fois où j'ai l'impression de me dire au fond de moi, est-ce que je suis vraiment béni de Dieu? Parce que si j'étais béni, je ne vivrais pas toutes ces catastrophes dans ma vie. Mais toutes sortes de choses difficiles qu'on vit, Dieu ne nous a jamais promis que ça allait être un long fleuve tranquille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne nous a jamais promis que ça allait être linéaire notre vie et qu'on n'aura jamais de difficultés. Non, souvent, en fait, des fois même, on a l'impression de vivre plus des bas que des hauts. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on a l'impression de dire, oh, depuis que je suis chrétien, ma vie s'est empirée d'une façon de parler. Et puis, tu ne comprends même pas pourquoi, en fait, tu vis toutes ces choses-là, mais aussi... Avant, tu ne dérangeais pas l'ennemi quand tu n'appartenais pas à Dieu. Mais maintenant que tu vis selon les standards de Dieu, dans ta relation, dans ton couple, dans ton mariage, dans la relation avec tes enfants, c'est sûr que autant Dieu a des plans pour toi, autant l'ennemi aussi a des plans pour toi. Et il ne veut pas et il veut nous déranger. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éteindre les flèches et que nos situations ne restent pas indéfiniment comme ça. Oui, on tombe, mais on se relève. On tombe, on se relève et on place nos yeux sur notre Jésus. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être acteurs de notre destinée. C'est fini la culpabilité, c'est fini constamment se flageller. On doit être acteurs de notre destinée et on doit croquer notre vie chrétienne à pleines dents. Et pour ça, si tu veux comprendre ce que ton papa céleste a pour toi, tu dois comprendre qui il est. Pour découvrir qui il est, tu dois regarder à Jésus, comme je disais tout à l'heure, qui est l'image du Dieu visible, qui est l'image invisible du Dieu invisible. Comme je dis, si tu ne passes pas de temps avec ton Père céleste, ça va être difficile pour toi de comprendre qui est Dieu et comment Dieu te voit. Donc, tu dois regarder à Jésus, tu dois le chercher. La Bible dit « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. » Frapper, on vous ouvrira. Mais des fois, on cherche pas mal. Pourquoi? Quand je dis qu'on cherche mal, c'est qu'on cherche pas vraiment. On cherche un petit peu et on base vite une conclusion sur quelque chose qu'on a un petit peu cherché. Si demain, vous perdez votre clé d'automobile, de char et que la clé est dans la maison quelque part, je vous confirme que vous allez retourner la maison jusqu'à ce que vous allez retrouver votre clé. N'est-ce pas? Parce que vous savez que si vous n'avez pas accès à votre char, vous êtes limité dans vos déplacements pour aller au travail, pour aller faire l'épicerie, certains pour aller déposer les enfants à l'école. Donc, vous allez retourner la maison jusqu'à un moment donné où vous allez voir la clé. Et bien, avec Dieu, c'est la même chose. Quand on cherche Dieu, il faut vraiment le chercher. Et si on le cherche vraiment, Dieu, il dit qu'il se laisse trouver. C'est la parole de Dieu. Si on croit dans la Bible, si on croit vraiment que la Bible est la parole de Dieu, on doit croire que si on cherche, on va trouver. Mais il faut chercher et chercher et chercher. Et ça ne se fait pas forcément juste en lisant un verset. « Oh, je lis ma Bible aujourd'hui, je lis 4 versets, je prends 10 secondes. Oh, j'ai lu 4 versets. Oh non, Dieu ne m'a pas parlé. Oh, Dieu, ça n'existe pas, cette affaire-là. » On ne fait pas ça. Ce n'est pas comme si okay, tu perds une clé d'automobile, tu regardes juste sous la chaise. « Oh, elle n'est pas là. Bon, bah, tant pis, j'ai perdu mon char. » Non, non, tu vas retourner toutes les chaises, tous les meubles pour la retrouver jusqu'à ce que tu la trouves. Bah, avec Dieu, tu devrais le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Et tu dois... t'approcher, le chercher avec foi. La foi, la Bible explique comme ceci. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. En fait, la Bible est claire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois réaliser et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu existe premièrement, mais que par la foi, par ta confiance, ta dépendance en lui, ton lâcher-prise des fois. Des fois, ça prend aussi du lâcher-prise pour laisser Dieu agir. Et bien, Dieu va se révéler à nous. On doit développer, frère et sœur, une relation avec lui. Moi, le premier qui vous parle, je veux plus de Jésus dans ma vie. Je veux plus découvrir qui est mon Père. Je veux plus découvrir les promesses qu'il a pour moi, plus me les remémorer parce que je suis plus en son contact avec lui. Et Dieu vous comprit, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Dieu veut nous rassurer, ne vous inquiétez de rien, il dit en Philippiens 4, versets 6 à 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends que tu as celui qui a positionné les étoiles dans le ciel, quand tu comprends que qu'il est celui qui a placé les frontières de la mer et que ce grand Dieu-là vit en toi, tu ne peux plus vivre ta vie normalement. Tu ne peux plus vivre ta vie constamment en te préoccupant parce que tu réalises que le Créateur de toutes choses vit à l'intérieur de toi. La Bible dit que nous sommes son temple, le temple du Saint-Esprit. Et que Dieu, alors que c'est un Dieu gigantesque, énorme, qui est à travers le temps, qui est intemporel, qui a vu toutes les générations passer et défiler devant lui, ce Dieu-là habite en moi et ce Dieu-là prend le temps de m'écouter quand je prie et qu'il désire m'exaucer et qu'il désire que je sois toujours plus proche de lui. Dieu nous écoute, c'est ça qu'il dit. Dans 1 Jean 5, verset 14, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute », dira 1 Jean 5, verset 14. Mais il ne nous écoute pas simplement en mode bah, « je t'écoute, ça rentre là, ça sort d'une oreille, d'une autre oreille ». Non, la manière dont Dieu nous écoute est très profonde. Il dit dans Jérémie 29, verset 12 à 13, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai ». Dieu ne désire pas simplement écouter ta prière comme « ok, bon, parle-moi » et puis je l'ai oublié 5 secondes après. Non, Dieu désire exaucer ta prière, mais il faut pour ça que tu comprennes qui est Dieu et que tu as un bon Père qui t'aime et qui veut prendre du temps à te donner, à te faire grandir et à te ressourcer lorsque tu t'approches de lui. Donc, tu dois développer ton obéissance, pas simplement juste je te prie, je te prie, je te prie, mais je vis une vie dans le désordre, une vie qui ne lui est pas agréable. Quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends que Dieu a offert la chose la plus précieuse, son Fils unique, pour s'offrir, et toi, pourquoi ? Pour t'adopter, pour te racheter, pour te faire t'amener dans la grande famille de Dieu, tu dois être désireux de faire sa volonté. Et la Bible est claire, elle dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices et les holocaustes que le peuple donnait pour des holocaustes, pour pardonner leurs péchés, et tu sacrifies. Aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui, on va peut-être sacrifier des choses, on va sacrifier notre temps, on va sacrifier peut-être nos finances pour bâtir l'église, donner notre dîme, on va sacrifier toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Mais Dieu dit, tout ça, c'est bien, mais je prends encore plus de plaisir dans les personnes qui m'obéissent, dans les personnes qui recherchent ma volonté. Et lorsqu'on recherche la volonté de Dieu, bah, Dieu peut alors agir pleinement parce que c'est plus à propos de nous, c'est à propos de lui. Et là, lorsqu'on fait ces prières, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, ça ne sera pas toujours facile, mais on sera dans la volonté de Dieu et on va être heureux. Et ça nous permet de témoigner à notre prochain parce que plus on est dans le cœur de Dieu, plus on a des choses à dire. Et c'est important de comprendre qu'on est en tant que ses enfants le sel de la terre. On est la lumière du monde. Et des fois, on a honte, on n'ose pas parler de Dieu, on n'ose pas lui dire, en fait, on n'ose pas dire aux gens qui est Dieu, on a honte de présenter Dieu, et où on dit, ben moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis pas, je suis pas ci, je ne suis pas ça, etc. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport juste à partager ta bonne nouvelle. Imaginez que tu es malade, tu as le meilleur médecin en ville, que le médecin t'a été, et à chaque fois que tu vas le voir, tu es guéri. T'arrêtes des malades autour de toi, t'arrêtes tous envie de lui dire que tu connais quelqu'un qui est capable de le guérir, n'est-ce pas? Ben, c'est la même chose avec Dieu. Tu as le Créateur de toutes choses, tu as celui qui t'a aimé, tu as celui qui t'a racheté, tu as celui qui t'a donné la vie éternelle et toi, tu as honte de partager la bonne nouvelle que toi-même tu as reçue, tu la gardes égoïstement parce que, en fait, tu dis, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu te préoccupes plus du regard des gens que du regard de Dieu, mais Dieu veut qu'on ouvre notre bouche. Il dit, ouvrez votre bouche, je la remplirai. Et hier, par exemple, je vous prends un exemple, j'étais au coiffeur et souvent, on prie cette prière-là le matin, on se lève, Seigneur, inspire-moi, conduis-moi. Et j'étais au coiffeur et je ne devais pas aller dans ce coiffeur-là, l'autre n'avait plus de place, etc. Et je me retrouve dans un autre coiffeur, j'étais là. Et puis en parlant avec lui, la discussion finalement arrive sur Jésus. Puis c'était la personne vraiment, le coiffeur qui cherchait à dire, j'ai des questions pour toi, j'ai des questions pour toi, etc. Et au final, ça a donné qu'il a commencé à se confier à moi. Il me dit, c'est bizarre, t'es comme la 2 ou la troisième personne que je coiffe qui me parle de Jésus. C'est comme, c'est spécial. Il me dit, t'es là deux. Il me dit, c'est bizarre, je te coupe les cheveux en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est bien plus que couper les cheveux, pourquoi on devait se voir aujourd'hui. Et je réalise, et là, je lui dis, OK. Je lui dis, regarde, je pense effectivement qu'il y avait quasiment 1% de probabilité que je vienne te voir parce que j'ai un autre coiffeur déjà, mais je pense effectivement que Jésus m'a envoyé pour te parler de lui. Et je lui ai présenté Jésus, et là, il m'a dit, par la grâce du Seigneur, il m'a dit, je veux venir avec toi à l'église. Mais être enfant de Dieu, c'est pas, j'aurais pu commencer à chercher à expliquer des grandes doctrines de la parole de Dieu, mais juste ouvre ta bouche, présente juste ton Père, présente juste l'amour qu'il a pour toi, c'est aussi simple que ça, et vous allez voir, vous allez toucher les gens qui sont autour de vous. Ouvre ta bouche, la Bible dit, je la remplirai. Donc, Dieu veut qu'on puisse témoigner. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois où je sentais que Dieu voulait que je témoigne et je ne l'ai pas fait. Et à chaque fois, j'étais comme « Pardonne-moi, Seigneur, parce que je savais que tu voulais que je parle. » Et j'ai gardé le trésor, l'héritage juste pour moi. Et on doit désirer. Et c'est correct dans le sens où Dieu nous pardonne. Et puis, mais Dieu veut qu'on puisse de plus en plus juste ouvrir notre bouche. Pas nous complexifier, pas commencer à prendre de l'avance. « Ah, si je dis ça, il risque de dire ça. » Non, juste ouvre ta bouche. Puis au final, Dieu nous cherche, ne nous demande pas de convertir les gens. Dieu veut juste qu'on soit des présentateurs de la bonne nouvelle. Et quand tu comprends ça, le fardeau va tomber. Pourquoi ? Parce que quand tu penses que tu es là pour convertir les gens, à chaque fois tu dis « Ah, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui acceptent Jésus », tu vas te sentir vraiment comme « Ah, je ne suis pas digne », etc. Mais quand tu comprends que ton travail, c'est juste de présenter qui est Dieu, de présenter l'œuvre du salut, de présenter qu'il y a un Père qui a donné son Fils, mourir à la croix pour toi, même si la personne ne veut rien savoir, ta job est faite, entre guillemets. Parce que ta job, ce n'est pas de convertir, ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, ne prends pas le rôle du Saint-Esprit. Ne cherche pas à convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens à lui. Mais toi, ton rôle, c'est de présenter qui est Dieu, de présenter Christ. Et porter du fruit, porter un fruit. Et vous voyez le fruit à l'écran, alors que je regardais ça s'appelle le jacquier. Et ce jacquier-là, je regardais, Dieu veut qu'on porte du fruit. Et ce fruit-là, comme ça, on dirait comme une taille d'ananas. Ce fruit-là peut monter, c'est le fruit le plus gros au monde. En fait, ce fruit-là, vous pensez qu'il fait combien de livres, là, à peu près? 3 livres? Ok, qui dit mieux? Ce fruit-là peut peser jusqu'à 70 livres. C'est le plus gros fruit au monde. C'est le jacquier où ça peut nourrir énormément de monde. Et plus tu vas passer du temps avec ton Dieu, plus tu vas porter du fruit, plus ton fruit va être gros et visible de tous, plus les gens vont pouvoir se nourrir du fruit que Dieu te donne de porter. Mais pour ça, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Et Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Alors tu dois être un homme, une femme responsable qui cherche l'unité avec Dieu, un agent de paix. Et tu dois chercher à aimer ton prochain. Aime-le comme toi-même, la Bible dit. Tu veux aimer ton prochain, mais tu ne t'aimes pas, ça ne marche pas. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois apprendre à t'aimer et après, tu vas pouvoir aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'aimer les autres. Mais pour t'aimer, il faut que... Ce n'est pas m'aimer pour m'aimer, c'est apprendre à comprendre déjà pour moi que Dieu m'a aimé, que Dieu m'a donné, que je suis choisi, que je ne suis pas le fruit du hasard. Et alors que je m'aime de plus en plus parce que j'aime ce que Dieu fait en moi, pas comme un mégalomane qui s'aime pour s'aimer, mais juste parce que je prends plaisir dans l'œuvre de Dieu en moi, je suis capable maintenant d'aimer les autres. Et je peux vraiment aimer les autres. Et la vie, malgré nos échecs, n'est jamais, pour finir, n'est jamais comme la fin en soi. Même si quand tu passes par des choses difficiles, tu peux te relever, tu peux grandir, tu peux avancer. Et Nelson Mandela dira, je ne perds jamais. En réalité, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça dépend, en fait, ta vie, la manière de vivre ta vie va dépendre de la vision que tu as des événements qui se passent autour de toi. Si tu vois, lorsque tu vis des choses difficiles comme des échecs, que t'es pas assez, etc., tu vas toujours rester par terre. Mais Dieu veut pas te laisser par terre, Dieu veut te relever. Et si tu réalises que les choses difficiles, tu peux ressortir plus grand, alors tu vas comprendre que tu vas apprendre. Et si tu apprends, ultimement, tu vas gagner. Et Dieu veut qu'on puisse grandir et apprendre. Alors que Will va nous conduire dans un champ, j'ai un premier appel, alors qu'on va finir sur le message et que vraiment on est aimé, choisi, pardonné, justifié, racheté par Dieu. Mon premier appel, c'est ne plus être affecté négativement par une mauvaise image du Père. En fait, que Dieu, peut-être qu'on a une mauvaise image du Père, mais Dieu veut que tu changes ta vision de voir les choses. Il veut te restaurer dans ton image du Père. Et si c'est toi ce matin, vraiment, lève ta main là où tu es, alors qu'on a tous les yeux fermés, et que tu aimerais redécouvrir ta relation d'enfant à ton Père céleste, tu as du mal à comprendre. Merci. Alors qu'on a tous les yeux fermés, lève ta main là où tu es. Et Dieu te voit et Dieu t'entend et Dieu veut te donner son amour. Puis mon deuxième appel, c'est en fait, Dieu veut se révéler à toi pour que tu sois l'enfant qu'il a choisi. Il veut que tu puisses marcher selon qui il est. Et alors que Will va nous accompagner dans un moment, on peut tous courber nos têtes et passer un moment avec le Seigneur, avec notre Père et redécouvrir qui est Dieu notre Père, comme Jésus l'avait compris.